La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui mardi, deuxième moment de notre semaine consacrée au grand argentin Jorge Luis Borges. La biographie de Borges offre bien peu d'aspérités auxquelles s'accrocher, si ce n'est bien sûr la spectaculaire cécité dont il a été victime, alors même qu'il vivait par et pour les livres, qu'il était bibliothécaire puis directeur de la Bibliothèque Nationale Argentine. Il a été l'ami d'Ocampo et de Roger Caillois avant de se brouiller avec ce dernier. Il a vécu de nombreuses années en Europe durant sa jeunesse ainsi que pendant ses dernières années, et c'est à Genève qu'il s'est éteint en 1986 à l'âge de 87 ans. Nous en parlions hier, c'était avec François Taillandier. Et demain, c'est avec le philosophe Jean-Clé Martin que nous reviendrons sur quelques motifs de son œuvre. Le rêve, la vision, le conte, le récit, voilà quelques termes dont nous tenterons de voir ce qu'ils signifient pour l'auteur du Livre de Sable. Enfin jeudi, c'est Christian Garcin qui sera à ce micro. Il a consacré un ouvrage à Borges dans la collection L'un et l'autre chez Gallimard, collection qui proposait à des écrivains de réfléchir sur leur rapport à d'autres écrivains. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de Borges et le fascisme, mais aussi de la réception qu'il a eue, je reçois Annick Louis, chercheuse en littérature à l'Université de Reims et à l'EHESS, auteur de Borges face au fascisme, c'est aux éditions Au lieu d'être. Et puis plus récemment, en 2016, elle a dirigé avec Roland Béard l'ouvrage collectif « Lire Borges aujourd'hui ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Borges et Jo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson.
Et bonjour Annick Louis.
Bonjour.
Je vous vois sourire en écoutant la voix de Borges. À quoi ça vous fait penser ?
Eh bien, surtout à mon adolescence, puisque Borges était un personnage omniprésent dans les médias argentins à l'époque, même sous la dictature. Et voilà, il passait souvent à la radio et à la télévision.
Et pour
aussi.
Dire quoi ? On l'interrogeait sur quoi ?
Surtout. Donc,
c'était
Borges,
l'intellectuel un peu à la française, à qui on pose toutes les questions politiques.
Oui, c'était un personnage un peu dissocié de son œuvre, c'est-à-dire que même dans les réunions plus littéraires, on l'interrogeait rarement sur son œuvre, sur ce qu'il avait écrit, mais on lui demandait tout ce qu'il pensait de la coupe de foot, ce qu'il pensait de la bibliothèque, ce qu'il pensait du fait de porter des chapeaux ou pas.
Enfin, alors les chapeaux, c'était bien.
Et il était plutôt pour les chapeaux dans les années, mais ça c'était avant. Mais en fait, on l'interrogeait absolument sur tout ce qui se passait dans la ville de Buenos Aires et sur les déclarations des militaires aussi. Et il était toujours, même si idéologiquement, au début surtout, il a soutenu la dictature, il était toujours extrêmement critique vis-à-vis de leurs discours. Mm-hmm. Et tout ça au niveau des discours.
Il l'a soutenu de quelle façon ?
Il a manifesté au début son adhésion, hein, il faut savoir, au coup d'État. Il faut savoir que Borges était profondément anti-péroniste, pardon, et que tout ce qui était contre le péronisme, donc pour lui, était excellent. Et le coup d'État a été fait contre le deuxième gouvernement de Perón.
Donc c'était par réaction en réalité,
Oui,
davantage que par adhésion.
Je pense, parce que des propos, en ce moment, je travaille justement sur ses déclarations publiques dans les journaux d'époque, et trouver des propos qui soutiennent la dictature au-delà des premiers jours, c'est très difficile, hein, il n'y en a pas. Et il a changé de bord, hein, on pourrait dire, il s'est retourné contre le gouvernement militaire, mais de façon très très directe, à partir de l'année 1980, qui est un petit peu une année charnière, hein, pour nous. Il y a beaucoup de gens qui soutenaient la dictature, qui ont changé d'avis à partir du moment où certaines preuves internationales ont fait surface, qui ont montré qu'il y avait des victimes, hein, qu'il y avait des disparus. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il a signé les pétitions pour connaître le destin de tous ces gens, par exemple, ce qui était assez courageux à l'époque aussi.
Donc pour vous, c'est un souvenir affectif, alors, Borges?
Oui, pour moi, c'est... il faut dire que je crois qu'on a du mal à imaginer ce qu'est une dictature dans le quotidien. C'est beaucoup d'ennuis. Beaucoup de choses qui se répètent, beaucoup de discours complètement idiots, excusez l'expression. C'est vraiment des discours qui sont très très bêtes à longueur de journée. On n'avait pas la liberté qu'on a maintenant dans les médias avec Internet et tout ça. Et on s'ennuie beaucoup. Et Borges a très bien joué son rôle qu'il avait depuis toujours d'enfant terrible dans la culture argentine. Et à chaque fois qu'on voyait qu'il allait intervenir et dire quelque chose, c'était un énorme plaisir pour nous tous, parce qu'en plus, il faisait ça avec beaucoup d'esprit, évidemment. Et c'est pour ça que maintenant, je m'intéresse à cette période pour essayer d'étudier ses propos et la façon dont il est intervenu dans la sphère publique.
Alors, est-ce qu'il a un rôle dans le fait qu'après, vous soyez devenue enseignante en littérature et que vous ayez été à l'université de Buenos Aires pour étudier la littérature?
Je ne suis pas très sûre. Je ne pense pas. Aussi, peut-être. En fait, c'est la conjonction d'un enseignant que j'aimais beaucoup, et c'est avec lui que j'ai lu Borges pour la première fois. Dans ma famille, bon, c'est la génération du boom de la littérature hispano-américaine, et on lisait beaucoup García Márquez, Vargas Llosa, enfin, tous les écrivains très connus, mais paradoxalement, il n'y avait aucun livre de Borges dans la bibliothèque. Les tout premiers, je les ai achetés avec mon argent de poche quand j'avais 14 ans. C'est cet enseignant qui nous avait introduit à l'œuvre de Borges, et il a après enseigné à l'université après la dictature aussi, donc on s'est retrouvés. C'est Jorge Panessi, et c'est lui, il a eu un rôle, oui, très important.
Oui, parce que là, on parle de la figure de Borges pour les Argentins, mais est-ce que les Argentins lisent Borges?
Oui, je pense que oui, quand même, je pense que oui. Alors, c'était pas le cas à l'époque, hein. Il savait qu'il disait toujours que lui, son œuvre, c'est comme la Bible, hein. Tout le monde en a une chez soi, mais personne ne lit, hein. Et c'est vrai qu'à l'époque, on voyait vraiment cette dissociation entre une figure publique qui était un symbole de la ville de Buenos Aires, que les gens arrêtaient dans la rue, les gens venaient l'écouter, se précipitaient quand ils le voyaient passer. C'était vraiment un personnage de la ville. Et je me souviens d'ailleurs, lors de ma première année d'université, on l'a invité faire une conférence. Et ce jour-là, il y avait, je sais pas, 1500 personnes dans la salle. Et je me souviens très bien que j'avais été acheter des mouchoirs, je crois, juste en face au kiosque. Il y avait un petit kiosque en face de la fac. Le monsieur me disait « Vite, vite, je ferme parce que je vais écouter Borges ». Et donc, c'était tout le quartier, tous les gens étaient là. Mais en même temps, on fréquentait peu son œuvre. Ce jour-là, il n'y avait eu aucune question sur son œuvre, par exemple, qui avait été posée. Toutes sur des choses. Qu'est-ce que la poésie? Qu'est-ce que vous pensez du péronisme? Il y avait beaucoup de choses, mais pas sur son œuvre.
Et alors ensuite, vous êtes venu en France et vous avez aussi travaillé sur Borges. Vous continuez d'ailleurs de le faire. Là, j'imagine que la vision du monde universitaire français sur cet écrivain-là est assez différente. Elle est forcément moins affective, elle est sûrement plus analytique. Et en même temps, on a l'impression que c'est quand même le gourou de l'université française.
Oui, en fait, c'était pour moi une grande surprise en arrivant, puisque les deux images sont très dissociées, sont très très différentes. Là-bas, c'était un personnage qui appartenait à la ville. Personne ne mettait en cause son appartenance, enfin, personne ne mettait plus en cause son appartenance à la culture argentine. Et en arrivant ici, bon, Borges, c'est un symbole, un auteur universel, c'est un auteur français pour les Français, hein, en un sens.
Pourquoi? Parce qu'il parlait français? Parce qu'il a vécu un tout petit peu à Paris?
Je pense que, en partie, par ce que vous disiez, l'appropriation et l'introduction de Borges à travers Roger Caillois, c'est fait, j'étudie aussi cette question-là en ce moment, c'est fait de façon telle à le présenter comme un auteur vraiment universel et tout à fait déraciné de son contexte de production. Alors cette image, elle a servi Borges, hein, pour être diffusée en France, mais a bien servi Caillois aussi. Mais tous les deux en ont profité, mais c'est une image qui le rendait un peu vraiment étranger à sa culture. Alors cette idée existait en Amérique latine, hein, les militants dans les années 60-70, les militants de gauche, hein, comme qui identifie en partie au péronisme, rejeter Borges. Mmh.
Alors, évidemment, il a beaucoup publié, mais il a surtout beaucoup sabré dans sa production. Ça, c'est assez étonnant. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, Annick Louis, à quel point il a opéré une sélection radicale sur sa propre œuvre. Je crois que il y a au moins 800 textes dont on connaît l'existence et il en reste à peu près 173. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi est-ce qu'il sabre comme ça dans son corpus?
En fait, pour moi, il y a deux mouvements un peu parallèles. C'est depuis le début, il sélectionne, parce que en 1923, il publie son premier ouvrage de poésie, Ferveur de Buenos Aires. Déjà, à ce moment-là, il a abandonné les avant-gardes ultraïstes. C'était un mouvement qui venait en partie de l'Espagne, puisqu'il avait été en Espagne.
Donc une sorte de dadaïsme ibérique.
Oui, très centré sur la métaphore, pas toujours avec bonheur, mais donc il renie tout ça.
Ça, c'était un peu une concession à l'air du temps. On a l'impression que tout le monde faisait ça à l'époque et que lui, jeune écrivain, avait besoin de se prouver qu'il pouvait le faire aussi.
Mais il était très jeune. Oui, c'est un peu ce qu'il a fait. En même temps, l'ultraïsme espagnol n'a pas un auteur de la taille de Borges. C'est aucun des poètes qui ont participé. Même les premiers poèmes, quand on les lit maintenant, on se dit « Oh là là, c'est pas très, très beau ». Il n'y a rien de qui ait cette qualité. Mais donc, depuis le début, il a toujours sélectionné. Et moi, mon hypothèse a toujours été qu'il sélectionne aussi en fonction de ses conceptions. De sa conception esthétique du moment qui se maintient sur certains aspects mais qui évolue aussi au fil du temps. Et puis il y a un moment radical, il y a un moment de rupture, c'est le moment du péronisme. Donc.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Borges avec vous, Annick Louis, et vous nous expliquez pourquoi il y a une sélection très importante qui a été effectuée par Borges lui-même dans ses œuvres, à tel point qu'il y a quasiment deux œuvres de Borges, c'est comme un iceberg, il y a la partie qui est sous l'eau, et puis il y a la partie qu'on connaît, mais vous connaissez les deux parties.
J'ai eu l'honneur, même si c'est peut-être pas un honneur, de collecter tous ces textes dans les revues d'origine avant qu'ils ne soient publiés. Parce que bon, ils n'étaient pas publiés, donc il n'y avait pas d'autre choix.
Oui, donc c'était un travail, j'imagine, très difficile.
Ah oui, mais passionnant. Je suis allée dans beaucoup de collections privées, j'ai pris contact avec des collectionneurs, beaucoup de bibliothèques, dans le monde entier d'ailleurs. Et c'était vraiment passionnant, mais c'était aussi difficile. Mais en revanche, j'ai toutes les versions dans leur support original, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et alors, quand il opère cette sélection dans les années 50, il est devenu un écrivain un peu marginal, parce qu'il est antipéroniste, et il fait donc partie de ce groupe d'intellectuels qui sont contre Péron. Et dans cette sélection, il y a quand même un choix très idéologique. Il faut savoir que le péronisme s'approprie la culture populaire, comme l'avait fait le nazisme, le fascisme avant. Et Borges, qui s'était intéressé à des zones de culture populaire, doit y renoncer, parce que sinon il va être associé aux péronistes. Et donc il abandonne toute une série de thématiques, de personnages à l'époque que les péronistes se sont appropriés.
Oui, donc c'est en fait beaucoup plus politique qu'on ne pense, parce qu'on a l'impression d'un écrivain très détaché quand même de la politique. Et vous êtes en train de nous expliquer que la politique a eu beaucoup d'impact finalement sur son
œuvre. En France, on le voit comme un auteur très détaché, mais c'était un homme qui était passionné par son contexte. Il adorait participer à toutes les polémiques, se disputer avec tout le monde. Il était très agressif quand il était jeune. Quand on voit les textes qu'il a exclus, en partie, on trouve des attaques contre des intellectuels d'époque et des réponses extrêmement virulentes. Donc il aimait beaucoup ça, il aimait la bagarre.
Alors je vous propose d'écouter justement Borges parler un petit peu de la question de l'érudition, qui est aussi l'un de vos thèmes.
Dans tous mes contes, il y a une partie intellectuelle, et puis il y a l'autre partie, qui est plus importante, je pense, du sentiment de la solitude, de l'angoisse, de l'inutilité, du caractère et du mystérieux de l'univers, du temps et ce qui est plus important de nous-mêmes, de moi-même, je dirais, non ? Je crois que dans tous mes contes, on trouve ces deux éléments. C'est-à-dire, ce sont un peu des jeux, mais ces jeux ne sont pas arbitraires. En tout cas, ils ne sont pas arbitraires pour moi. Il y a une nécessité, si le mot n'est pas trop fort, qui m'a été poussé à les écrire. Et puis je me suis amusé aussi, parce que cette corvée, enfin, d'écrire un conte, cela n'a pas été seulement une corvée, je me suis amusé aussi. Cela était un jeu, un peu comme le cas d'un joueur d'échecs, par exemple, non ? Il y a là un problème, il y a un amusement et une joie aussi.
Vos contes, plus le lecteur est logicien, plus le lecteur est mathématicien, plus sa pensée est moderne, et plus, j'ai pu m'en assurer, et il a des éclats de rire brutaux lisant vos contes.
Ah, mais je suis très content que vous me disiez cela. Parce qu'il y a des gens qui croient que tout cela est une sorte de jeu aride. Et pour moi, ce n'est pas aride. Moi, je me suis amusé à les écrivant. Et j'étais ému quand je les écrivais. Je sentais parfois que je bordais le cauchemar. Mais en même temps, je n'étais pas ennuyé, non ? Au contraire, et cela m'amusait.
La Compagnie des auteurs sur France Culture, et c'est Borges qu'on entendait expliquer pourquoi finalement, malgré son érudition, on n'était pas obligé d'être un logicien, un mathématicien pour le lire et pour le comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Annick Louis, qui vous êtes intéressé justement à cette question de l'érudition chez Borges?
Bien, je pense qu'il a raison que si on accède à son humour, on est sauvé, hein, on est entré dans l'œuvre, parce que malheureusement, il faut le dire, c'est souvent en français un effet des traductions que l'humour s'est perdu. Hein, j'ai pu étudier les traductions et donc j'ai bien vu ceci. Mais effectivement, je pense que l'érudition était un jeu pour lui, un peu comme je dis souvent, un écran de fumée. Parce que l'érudition n'est pas là pour embêter les gens peu lettrés ou peu cultivés chez Borges. Au contraire, c'est une façon de se moquer de ses contemporains lettrés. Hein, et souvent, c'est assez clair quand on reconstruit le contexte de publication des textes. On voit bien à qui il est en train de viser en rappelant certains noms de philosophes ou des choses comme ça. Et c'était. Il faut savoir aussi que c'était ce qui a fait sa réputation première. Hein, c'est ses qualités de poète d'avant-garde. Mais ça, c'était vraiment uniquement parmi les jeunes. Mais quand il revient à Buenos Aires à partir de l'année 1921, ce qu'il impose parmi ses contemporains, c'est son érudition. Les Argentins disent haut et fort, nous avons un intellectuel qui est plus érudit que les intellectuels européens.
Oui, mais alors justement, à la lecture, avec les notes de bas de page, les références, les renvois, on peut se dire, en effet, alors peut-être est-ce l'effet de la traduction, à quoi est-ce que tout cela sert exactement ? Pourquoi est-ce que on ne nous donne pas directement la clé ? J'imagine que c'est précisément voulu, Annick Louis.
Eh bien, moi, je pense que pour lui, la fonction de la littérature, c'était de poser des énigmes au lecteur, et que donc c'est en fonction de ça, il faut juste réfléchir. Donc après, on trouve une solution ou une autre. Je pense que c'est un système dans lequel les solutions et les réponses ne sont pas vraiment imposées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, d'hermeneutique hein, chez Borges. Il n'y a pas une réponse attendue. C'est un système d'énigmes qui se pose et dont la résolution dépend du lecteur, puisque il avait une conception du lecteur comme son égal dans le bon sens. C'est-à-dire le lecteur devait se poser des questions et essayer de les résoudre, pas être érudit. Forcément.
Donc chaque nouvelle, chaque conte est une énigme.
Chaque conte est souvent dans les fragments des contes. Hein, par exemple, vous faisiez référence aux notes en bas de page. Alors les notes en bas de page sont rarement érudites, mais elles posent la question d'un narrateur qui dit quelque chose sur ce que quelqu'un d'autre est en train de raconter. Et donc là, évidemment, on se pose la question, mais alors qui a raison ? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire ? Et donc par ce biais, hein, la superposition de narrateurs, hein, donc plusieurs narrateurs dans un récit, c'était une de ses techniques des années 40. Hein, surtout, il la réemploie pas dans les années 70, mais c'était une de ces techniques des années 40, et donc de fiction, l'Aleph, les nouvelles les plus connues. Hein. Et ça avait en partie pour but de poser ceci, hein, c'est quelle est l'autorité dans la littérature.
Donc c'est une réflexion constante sur la littérature. Est-ce que vous diriez que c'est ça finalement le projet de Borges, c'est de réfléchir et de faire réfléchir son lecteur sur la littérature.
Oui, je pense, mais c'est des énigmes qui sont posées de façon extrêmement sophistiquée, hein. Parfois, par exemple, toutes les façons très détournées dont il parle du nazisme. C'est pas nécessaire de voir là-dedans des références au nazisme, mais on peut, à travers les sociétés secrètes, etc. Mais oui, je pense que c'est poser une énigme. Il disait que construire un problème, c'était beaucoup plus difficile que de le résoudre. Et poser une énigme, c'est la même chose, hein. Poser une énigme, c'est beaucoup plus difficile que de trouver une solution, finalement.
Votre œuvre est-elle métaphysique ?
Je crois qu'elle est essentiellement métaphysique. Parce que s'il y a deux choses qui m'ont intéressé, enfin, sauf les passions humaines que tout le monde connaît, c'est la littérature et la philosophie. Et la métaphysique, et surtout l'idéalisme. C'est ça qui m'intéressait, toujours. Le matérialisme ne m'a jamais intéressé. Il me semble une hypothèse assez pauvre, et assez irréelle. Tandis que des écrivains comme Berkeley, ou Schopenhauer, ou Bergson, les orientaux, tout cela m'a bien intéressé. La philosophie indienne, j'en ai lu beaucoup, j'ai même écrit un petit bouquin sur le bouddhisme. J'ai publié à Buenos Aires un manuel de bouddhisme, sans aucun drame, je l'ai fait. C'est un livre d'information, mais cela suppose une assez vaste lecture.
Et comment pourriez-vous définir les métaphysiques ?
C'est la recherche de l'absolu, non ? Ou la recherche des choses essentielles, savoir qui nous sommes, que nous sommes, s'émerveiller des choses, tâcher d'en trouver une explication, savoir qu'on ne la trouvera pas. Aristote disait que l'étonnement était le commencement de la philosophie. Et c'est très bien, hein, l'idée de s'étonner. Il y a bien des gens qui ne s'étonnent pas, qui acceptent l'univers. Tandis que moi, je suis toujours étonné, étonné d'être dans un corps, étonné d'avoir une voix, d'avoir des yeux, d'avoir un passé, d'être en France, de parler avec vous. Tout cela m'étonne continuellement.
La compagnie des auteurs sur France Culture, que retenez-vous, Annick Louis, de cet archive de Borges ?
Bien, je pensais effectivement que la deuxième fonction, ce serait de la littérature, serait de poser des questions sur le réel. Hein. Donc, c'est pas uniquement sur la littérature. Et je pense qu'elle est métaphysique dans ce sens-là, sa littérature. Parce que d'où aussi son rejet de toutes les esthétiques très réalistes ou psychologiques qui postulent qu'ils essayent de comprendre ou d'expliquer le réel. Pour lui, c'était vraiment en termes d'énigme que ça doit se poser, je pense. Et je crois que le côté métaphysique venait par là, en tout cas, à mon avis. Et puis, à l'intérêt, évidemment, pour toute une série de thématiques, comme la circularité du temps, les destins des hommes, hein, c'est quand même un thème récurrent aussi. Il le pose souvent sur des formes très, très simples, mais la résolution est très complexe, au fait.
C'était un lecteur de Bergson ?
Oui, Bergson, Nietzsche. Hein, il signale d'ailleurs très, très tôt hein, l'appropriation du nazisme, que le nazisme va faire de Nietzsche. Et dans un article, d'ailleurs, qu'il refuse après de publier en volume, pendant très longtemps, il signale déjà que effectivement, dans les années 40, hein, ceux dont les nazis se revendiquent, c'est pas du tout Nietzsche. C'est pas du tout ça. Il y a Schopenhauer aussi, évidemment, oui.
Alors vous, Annick Louis, vous vous êtes beaucoup intéressée justement à cette question du fascisme. D'ailleurs, vous y venez naturellement quand on parle de cette question métaphysique. Est-ce que le corpus de Borges est important de ce point de vue-là ? Est-ce que vous diriez que c'est un de ses sujets ?
Oui et non, disons, en fait, si vous prenez en compte l'œuvre que lui-même a publiée à partir des années 50 et les œuvres complètes par la suite, non, en fait. Mais si on revient à tous les textes qu'il n'a pas publiés, oui, c'est une présence très constante. Hein,
c'est une obsession.
Moi, je l'ai perçu dans ces termes après mes premiers travaux sur les années 30. Ce que j'avais vu en collectant les textes et en les lisant par ordre chronologique, hein, c'est effectivement que la référence est très constante. Il n'y a pas de texte où il n'y ait pas au moins une phrase qui fasse référence à cette question-là, à partir, disons, de 1936-37, hein, à peu près. Et c'était ça qui m'avait intéressée, au fait. C'était pas l'intention de démontrer qu'il avait, comme disait un de mes amis, qu'il avait connu des temps meilleurs, en fait, qu'il n'avait pas toujours appuyé les dictatures. C'était pas une tentative de revendiquer, mais c'était vraiment la perception, c'est vraiment une sorte de saturation textuelle, de référence au fascisme et au nazisme surtout, mais il y a quand même des références au fascisme aussi. Là où il y en a moins, c'est pour le franquisme espagnol. Ça, c'est aussi étonnant aussi, parce qu'on sait qu'il s'est engagé en défense des républicains, mais il n'y a pratiquement pas de référence. Je pense que c'est dans la mesure où ce qu'il appelle les germanophiles, hein, les partisans du nazisme se sont multipliés.
Surtout en Argentine.
En Argentine, que la question l'a intéressé, parce que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au discours, hein, quand il raconte qu'il allait dans les cafés. En fait, il allait dans les cafés pour écouter ce que les gens disaient hein, à l'époque. Et donc, il avait cette perception très aiguë hein, des discours des gens. Et ça pouvait être, comme je disais, ses camarades, ses compagnons intellectuels. Et ça pouvait être juste les gens avec qui il parlait dans la rue. Hein. Il avait une certaine facilité pour parler avec les gens. On imagine mal ça, mais oui.
Mais alors, est-ce qu'il y a une dissonance cognitive entre ce qu'on va raconter de son rapport au fascisme, hein, vous intitulez votre livre Borges face au fascisme, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur son positionnement. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance cognitive, une ambiguïté entre le fait d'être face au fascisme et, comme vous le dites, le fait finalement d'aller serrer la main de Pinochet, par exemple?
Oui, certainement, mais ce sont des époques très différentes. Hein. Je pense que ce qui en Argentine a beaucoup modifié les rapports, c'est le péronisme. En fait, donc, à partir de 1936, nous avons, comme en Europe, hein, le camp des fascistes et des antifascistes, mais quand le péronisme arrive, ce ne sont pas forcément ceux qui étaient antifascistes qui sont antipéronistes et les péronistes qui étaient fascistes. Donc tout ça se mélange et il y a un rejet très important hein, de sa part, qui explique après, toutes les positions qu'il va prendre après seront contre le péronisme. Mais le péronisme a un aspect populiste aussi, de revendication des droits des travailleurs et des gens les plus démunis. Hein. Et ce côté, il a été assez indifférent finalement à ce côté, ce qui est un peu dommage.
Oui. Alors, en même temps, quand il évoque le fascisme, on va voir qu'il l'évoque de façon très complexe. Il n'y a pas de simplification chez Borges. On peut peut-être commencer en parlant de cette nouvelle qui s'appelle « Deutsche Requiem ». Avec le personnage de Otto Dietrich Zurlind. Alors, racontez-nous peut-être un petit peu qui est ce personnage et de quoi parle cette nouvelle.
D'accord. Donc, c'est une nouvelle publiée pour la première fois en février 1946, dans laquelle il donne la parole donc à un bourreau nazi, qui va raconter comment il s'est engagé dans le nazisme et comment il a fini par être directeur d'un camp de...
Il est en prison à la veille de mourir car il a été condamné.
Oui. Il vient d'être condamné, donc il dit qu'il ne s'est pas défendu pendant le procès, mais il va se défendre. Donc on suppose que le lecteur suppose que c'est une sorte de manuscrit hein, qu'il laisse. Mais ça n'est pas dit de façon explicite. Et donc il va expliquer son processus de conversion et une sorte de double fascination pour les juifs et le désir de les exterminer. Donc il va se mettre en place. Et donc, ce qui m'avait intéressé, c'est que cette nouvelle a été écrite et publiée pendant les procès de Nuremberg, oui. Qui, comme on le sait, ont été la première instance d'apparition publique de la parole des victimes. Hein. Donc, les alliés se trouvant un petit peu dans le pétrin, parce qu'on ne peut pas très bien démontrer qu'il y a vraiment un complot dans le gouvernement nazi, puisque tous ces gens ont été élus. Enfin, ça restait un système démocratique au départ. Ils décident de laisser parler les victimes. Et donc, ce texte est très mal perçu hein, au moment où il l'a écrit en Argentine. Il est perçu comme une sorte d'excentricité, hein, d'enfant terrible. Hein. Il faut dire que lors de sa publication, c'est très étonnant parce que dans la revue, ils ont inversé un certain nombre de lignes. Donc c'est pratiquement impossible de lire la nouvelle correctement. Et c'est très très bizarre dans le numéro dessous. Il y a une petite erreur d'impression.
Ça rajoute du labyrinthique.
Oui, ça, c'est, je crois que je ne sais pas très bien ce que les contemporains ont pu comprendre, effectivement, en 1946. En plus, tout le monde était engagé dans les élections où Perón a gagné pour la première fois. C'était une grande surprise, hein, évidemment. Et donc, effectivement, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était qu'au moment où les victimes prennent la parole, ce qui l'intéresse, lui, c'est de faire la fiction de la parole d'un bourreau.
La parole d'un bourreau, et il expliquera qu'il a essayé tout de même de s'identifier au personnage. Et notamment, ce qui est intéressant par rapport à la conversation qu'on a eue sur l'érudition, c'est que le personnage de Zurlind est un érudit, un philosophe sans doute, quelqu'un qui est baigné dans l'art, dans la littérature et dans la réflexion.
Oui. Oui, ça a été un des premiers qui a proposé cette vision où nazisme n'est pas à l'opposé, n'est pas synonyme de barbarie et à l'opposé de la culture. C'est des termes très simplificateurs dans lesquels a été traduit un peu le nazisme et qu'on retrouve d'ailleurs dans Le silence de la mer de Vercors. Hein, c'est cette idée que si une personne est cultivée, elle ne peut pas vraiment adhérer au nazisme, elle est juste leurrée. C'est un texte qui a circulé d'ailleurs à Buenos Aires à l'époque et même Victorio Campo que vous aviez mentionné a écrit un compte rendu là-dessus. Donc son idée, c'était d'essayer de comprendre comment a fonctionné vraiment le nazisme et en rejetant cette idée que les nazis, c'était des barbares. Hein. Ils ont commis des actes contre l'humanité, mais c'est pas pour autant que c'est des barbares. C'est une conception de la barbarie et la culture qui est très particulière. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, elle nous surprend moins, puisqu'on a appris à faire un petit peu le point.
Mais alors ce personnage-là, de Zurlind, il justifie son parcours. Il n'y a pas de repentance du tout chez lui. Il considère finalement que c'était une mission pour lui.
Oui, il considère qu'ils ont été un petit peu l'instrument, un instrument qui mène à la mort du christianisme. Alors ça reste à prouver évidemment, mais de la pitié chrétienne, hein, dit-il. Donc ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que en proposant ces hypothèses et cette justification, il reprend le contrôle en un sens. C'est comme si eux-mêmes avaient décidé de leur destin.
Oui.
Et il y a un refus quand même du fait qu'ils sont vaincus. ils ont été vaincus.
Oui. L'Allemagne, toujours au bord de gagner, toujours au bord de tout remporter, dit Borges quelque part, mais toujours, à la fin, perdant tout.
Oui, en tout cas, depuis 1942, ils étaient clairement perdants. Mais alors, en même temps, c'est vrai que bon, j'avais étudié les procès de Nuremberg à l'occasion et que cette espèce de messianisme qui peut nous paraître délirant, hein, est dans les discours des représentants du nazisme, hein, et en particulier la lettre que laisse Robert Ley au moment où il se suicide, hein, pendant les procès. Quand on l'étudie, il y a des similitudes avec ce que Borges propose.
Hein. Pour terminer sur cette question de humanisme et barbarie, est-ce que si on a dit que l'érudition n'empêchait pas la barbarie, est-ce que Borges considère que l'humanisme peut créer de la barbarie d'une façon un petit peu perverse ?
Je pense qu'on peut le voir comme ça. Je pense que son objectif premier était effectivement de montrer que cette barbarie nazie n'est pas menée par des sortes de hordes incultes.
Mais c'est la culture qui peut créer la barbarie pour lui ?
Je pense qu'il y a cette idée. Elle peut.
Et comment ?
Mais pas nécessairement.
Ouais.
Pas nécessairement.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Nous allons poursuivre avec vous, Annick Lui, cette conversation sur Borges et le fascisme. Mais comme chaque jour, au mi-temps de cette émission, nous retrouvons un représentant ou une représentante de nos amis, les revues, pour parler de leur sommaire. Bonjour Valérie Tohanian.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes directrice de la revue Des Deux Mondes, revue au sommaire de laquelle on peut retrouver un dossier sur l'histoire des Juifs de France, des origines à nos jours. De quoi s'agit-il ?
Alors les Juifs en France, oui, avec en couverture Simone Veil, deux témoins, deux amis, deux proches parlent de son judaïsme, Marceline Loridan-Ivens qui fut internée avec elle à Auschwitz et Dominique Schnapper, la sociologue qui siégea avec elle au Conseil constitutionnel. Elles n'avaient jamais dialogué ensemble et elles évoquent, chacune à leur manière, le judaïsme de cette femme politique iconique, bientôt panthéonisée, défenseur de la loi qui porte son nom pour le droit à l'avortement et première présidente du Parlement européen. Marceline Loridan-Evans raconte « Simone, sa mère, sa sœur étaient des Israélites symbolisant la France cultivée et intelligente. Moi, j'étais une Polaque. Simone, je l'avais remarquée tout de suite dans les camps parce qu'elle était belle. » Issue d'une famille petite bourgeoise, originaire d'Alsace, puis établie à Nice, Simone Veil ne fréquentait pas la synagogue. La tradition familiale était laïque et républicaine. Son judaïsme lui a en quelque sorte été révélé par le nazisme, mais c'est aussi l'expérience des camps qui guidera son destin politique. Revenir des camps et avoir comme ligne politique la réconciliation avec l'Allemagne est admirable, dit Dominique Schnapper. Simone Veil aurait pu passer toute sa vie dans le souvenir, le malheur, le ressentiment. Elle a voulu au contraire transcender son expérience, pourtant extrême, et miser sur l'avenir.
Donc vous avez titré en effet sur les Juifs en France, des origines à nos jours, mais vous avez sous-titré votre dossier par l'expression « le nouvel antisémitisme ». À quoi cela renvoie-t-il ?
Alors c'est Pierre-André Taïeff qui dresse dans ce numéro un bilan accablant. Ces 5 dernières années, les actes antisémites ont représenté, selon le ministère de l'Intérieur, 40% des actes racistes recensés en France, alors que les Juifs représentent moins de 1% de la population. Et si l'on s'en tient aux violences hors injures, menaces et graffitis en 2014, 60% avaient ciblé des victimes juives. Sarah Halimi, défenestrée par son bourreau en avril 2017 au cri de Allahu Akbar, est la dernière victime la plus tragique de cette triste recension. Pour Pierre-André Taguieff, la France n'est pas devenue ou redevenue anti-juive, mais il y a une France anti-juive dans la France contemporaine. Une grande partie de la classe intellectuelle, poursuit-il, s'est longtemps refusée à reconnaître que la récente vague anti-juive était le produit des interférences de 3 types de mobilisation : l'antisionisme radical d'extrême gauche, le pro-palestinisme mystique et l'islamisme, et que ses principaux acteurs étaient désormais issus d'une immigration de culture musulmane.
Est-ce que ces actes antisémites ont comme conséquence un repli identitaire et religieux ? C'est une autre question que pose la Revue des Deux Mondes.
Et la rabbin Delphine Horwiller répond et constate une plus forte fréquentation de la synagogue, un réflexe de solidarité de groupe, dit-elle. On se replie sur la zone de confiance. Mais, ajoute-t-elle, le rite a aussi une puissance sociologique. Il stimule la réflexion. Delphine Horwiller déplore le fondamentalisme, cette tentation idolâtre d'un dieu hyper présent dans un monde rempli de brisures, de manques et de vides. La vraie fidélité à une tradition est bien souvent, comme le disait Jacques Derrida, une infidélité. La clé d'une tradition religieuse vivante, c'est que le texte continue de parler.
Et enfin, vous posez la question de savoir si l'expression « écrivain juif » a un sens.
Voilà, et c'est la question que se pose Marc Weissmann qui répond « Je ne sais pas si j'ai une conscience juive ». Comme romancier, en tout cas, ça n'a pas tellement de sens. J'ai grandi dans un milieu sociologiquement assez proche de celui que je prête à mes personnages, celui de la petite moyenne bourgeoisie culturelle de province, telle qu'on la voit décrite dans certains films de Claude Sautet. On y parlait beaucoup de politique, mes parents étaient communistes, et pas de judaïsme. Après-guerre, poursuit-il, le parti communiste s'est auto-institué le parti des fusillés, donc des martyrs, et cette étiquette a permis à beaucoup de juifs de considérer le communisme comme une sorte de communauté de substitution. Être communiste revenait à mettre en scène une spécificité non dite. Une figure telle que celle de Jean Ferrat, par exemple, que mes parents adoraient, est typique de cette évolution. Personne ne parlait des camps, mais tout le monde chantait « Nuit et brouillard ».
Merci Valérie Toragnon pour la présentation du sommaire de la Revue des Deux Mondes qui est à retrouver en librairie. À bientôt. La suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous continuons de parler de Jorge Luis Borges. Vous avez vu, j'essaye de le dire une fois sur 10 avec un accent un peu moins français. Nous sommes avec Annick Louis, maître de conférence en littérature à l'Université de Reims.
Les gens lisent mes textes bien des fois. Je ne les ai écrits qu'une seule fois, je ne les ai pas relus, sauf pour corriger les épreuves, non ? Mais je connais fort peu mes textes. Peut-être que les connaissez-vous mieux que moi, monsieur.
Vous demandez qu'on vous les lise de temps en temps ?
Non, je tâche d'oublier mon passé. Je suis un peu honteux de ce que j'écris. Je pense encore comme si j'étais jeune. Je ne suis qu'un très vieux monsieur, mais je pense toujours à l'avenir. Je pense que mon passé, c'est une série d'erreurs, erreurs de toutes sortes. Ma vie était une erreur. Mon œuvre littéraire, je ne l'aime pas. Je préfère celle des autres, presque de n'importe quel autre.
Borges qui expliquait à Jean Montalbetti en 1977 qu'il n'aimait pas ses textes, Annick Louis.
Oui, c'est assez, mais
ça vous
c'est
paraît
charmant.
Possible?
Non, en plus, on a de l'époque toute une série d'entretiens où il y a justement quelqu'un qui lui lit un texte écrit par lui, évidemment. Et à chaque fois, il dit « Ah, c'est pas si mal, c'est pas si mal !» C'est très mignon.
Et quand il dit « Ma vie est une erreur », alors c'est la même chose?
La question de la vie de Borges, c'est compliqué, hein, parce que comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'événement très saillant, hein, dans sa vie. On pourrait dire qu'il n'a pas de vie, hein, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas de vie privée, hein, en un sens. Il a toujours prétendu que sa vie c'était la littérature et sa vie publique, en un sens. Et c'est vrai qu'il y a très peu d'événements, qui soi-disant sont marquants et qui apparaissent parfois dans ses nouvelles, comme le célèbre accident des années 30, qui soi-disant serait à l'origine du fait qu'il s'est mis à écrire des nouvelles, hein, qui apparaît dans Le Sud, la nouvelle Le Sud. Et donc il a un accident, c'est vrai, il a eu un accident, mais il avait déjà écrit des nouvelles depuis plusieurs années. Donc en fait, il a utilisé les rares éléments de sa biographie pour créer des sortes de mythes littéraires, hein, comme quoi l'origine de la fiction est dans un délire fiévreux à la suite d'un accident, par exemple. C'est charmant, mais ça n'est pas très très réaliste.
Alors pour revenir à cette question qu'on abordait avant la chronique de Valérie Toragnan, du fascisme et de Borges face au fascisme, il y a cette nouvelle, Requiem, et il y a aussi une autre nouvelle qui fait partie du corpus qu'on peut étudier sur ce thème, qui s'appelle « Trois versions de Judas ».
Oui.
Alors, c'est encore une très courte nouvelle, hein, ça fait trois pages à peu près, comme très souvent d'ailleurs les contes de Borges sont souvent très très courts. D'ailleurs, au passage, est-ce qu'il y a une raison pour cela? Est-ce que longue ne lui a jamais paru intéressante?
Alors, c'est faux qu'il ne lisait pas de romans, en tout cas dans sa jeunesse, il en lisait énormément, on le sait par la correspondance maintenant, il a toujours nié, mais c'est pas vrai. Mais ce qui est certain, c'est qu'il préfère la forme brève. Il disait, pourquoi écrire 200 pages quand on peut dire la même chose en 3 pages?
Mais est-ce qu'on peut vraiment dire la même chose?
Et ça, c'est une très bonne question, mais je pense que son écriture, elle procédait comme ça. Hein. Mm-hmm. Je pense, le peu qu'on sait de ses manuscrits, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup détruit ses manuscrits, c'est que ça s'étale au début, et puis il reconcentre.
Il y a quand même une vraie volonté de distiller, finalement, et c'est peut-être ce qui rend aussi parfois à la fois très riche et en même temps plus difficile d'accès.
Il y a un tel travail sur chaque phrase, chaque paragraphe, que c'est un travail qui en un sens, pas dans le sens de l'esthétique, mais qui relève du travail poétique. Hein, et il faut se rappeler qu'il a commencé sa carrière en tant que poète. Et de Deutsches Requiem, il faudrait dire aussi que finalement, c'est en raison de ce qui vient aussi d'être annoncé par notre collègue, c'est que c'est une nouvelle qu'il a pu écrire parce que tout le monde savait qu'il était farouchement opposé à l'antisémitisme. Il a milité pour les droits et justement défendre dans un pays où il y a eu beaucoup de pogroms, beaucoup d'incidents antisémites, hein, quand même. Pogrom, c'est peut-être pas le mot, mais il y a eu beaucoup d'incidents antisémites, hein, et il a milité contre l'antisémitisme, et tout le monde connaissait ses positions. Tout le monde savait qu'il était contre l'antisémitisme et qu'il était anti-nazi. S'il ne l'avait pas été, je ne sais pas s'il aurait pu se permettre d'écrire une telle nouvelle ou comme vous disiez, on la lit, on a vraiment l'impression d'une justification du nazisme qui tient la route en plus. Hein. C'est convaincant hein, quand même. Otto est très doué du point de vue rhétorique.
Alors la rhétorique, justement, ça c'est aussi un mot contre lequel se bat Borges. Il déteste cette idée de la rhétorique. On va revenir à Trois versions de Judas, hein,
je ne voudrais pas l'oublier. Bien, parce que c'est une nouvelle que j'aime beaucoup.
Mais cette idée de la rhétorique.
Oui, donc effectivement... La rhétorique utilisée par Otto, c'est toute la rhétorique que Borges déteste. Hein. C'est toutes les figures auxquelles il essaye de s'opposer. Et il y en a, et en particulier la figure de l'omission, hein, par moment, la condensation, etc. Et effectivement, il faut le dire qu'il met dans la bouche de du bourreau nazi. C'est vrai, certaines de ses propres idées, c'est indéniable.
Mais comme aussi, par exemple.
Eh bien, cette idée, par exemple, que on peut de l'instrument de quelque chose est une idée très bourgeoisienne, hein, que nous ignorons de quoi nous sommes l'instrument et que nous sommes peut-être l'instrument de l'opposé de ce pourquoi nous sommes prêts à mourir, hein, en un sens. Donc il y a quelque chose de là. Je pense qu'il y a vraiment une dimension très effectivement très philosophique, presque métaphysique dans son œuvre, dans cette idée du destin, hein, que nous essayons de poursuivre, mais qui en même temps est un destin qui se joue en nous, alors que nous ignorons les conditions et l'aboutissement. Mmh. Et cette idée est effectivement très bourgeoisienne. Son amour pour la poésie expressionniste, hein, il a été poète expressionniste au début, enfin il a traduit les expressionnistes, il était très intéressé par le mouvement, hein, par exemple. Oui.
Alors, trois versions de Judas, extrait du recueil Fiction. Là aussi, c'est une thèse qui est un petit peu proche de la justification du nazisme dont on parle dans Deutsche Requiem. Quelle est l'histoire ?
L'histoire est compliquée.
Si on peut dire.
C'est un théologien, n'est-ce pas, qui essaye de réfléchir au rôle qu'a joué Judas dans l'histoire du christianisme. Et il en arrive à la thèse, qui le rend fou d'ailleurs, hein, c'est que en réalité, Jésus, c'est Judas. Donc au fait, le véritable apôtre du christianisme, c'est Judas, c'est-à-dire comme Otto, hein, dans Deutsches Requiem, celui qui accepte de se sacrifier pour ceux qui le répugnent le plus. Hein, mm-hmm. Parce qu'au plus, dans sa biographie aussi, Otto, il raconte toujours combien le nazisme le répugne.
Oui, parce que l'idée, c'est qu'au fond, pour trouver Jésus, c'était pas très compliqué.
Voilà.
Pour les Romains, il suffisait oui, de demander où était le prédicateur
en question.
C'est l'idée
de Quincy aussi, n'est-ce
Exactement.
Pas que c'était absolument absurde. Hein. Il est très marqué dans cette période par la lecture de Quincy Borges. Et donc, il fait toute cette lecture très contextuelle, hein, et contextualisante de l'histoire de Jésus et Judas. Mais il n'arrive pas à l'extrême de Borges, hein, de prétendre qu'en réalité, le véritable apôtre, c'est Judas.
Donc, il se serait sacrifié finalement, oui. Judas, mais pourquoi ? Enfin, dans quel
Eh bien,
but ?
Le sacrifice consiste à apparaître pour l'histoire et pour toute l'humanité comme le traître est la personne la plus indigne. Alors évidemment, il y a la question de la figure du traître qui est importante aussi pour Borges.
Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Eh bien, il y a cette fascination qu'il a pour le traître. Bon, une histoire dans la production littéraire argentine, mais il y a aussi cette idée que chez Borges, aucun personnage n'est blanc ou noir. Et là, je pense qu'aussi, c'est un chemin peut-être très simple, ou qui semble très simple, on arrive à ces conceptions qui sont très philosophiques. Hein. Donc chez le traître, il y a le héros, et le héros, il y a le traître. Et donc, cette idée qu'on peut contenir beaucoup de choses et on peut jouer le rôle opposé à celui qui est public. Et là, on retrouve aussi cette idée que l'image publique et ce que la personne est vraiment, hein, peuvent être entièrement dissociés, même à l'opposé. C'est la même idée dans tous ces récits, dans l'histoire du thème du traître et du héros aussi.
La compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons des multiples facettes de Borges avec vous, Annick Louis. Parmi ces multiples facettes, il y a aussi l'intérêt pour un médium, différent qui est le cinéma. Et dans Borges, face au fascisme, vous en parlez justement. Pour quelle raison ?
Eh bien, parce que déjà parce que en collectant les textes qui n'avaient pas été réunis sous forme de volume, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de textes sur le cinéma à partir de 1929. Donc, on peut dire qu'il s'est intéressé relativement
tard. Ceux qui ont été coupés, alors. Donc, oui. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il aurait enlevé tous les textes relatifs au cinéma ?
Ben, une des hypothèses possibles, c'est effectivement que tout ce qui était très lié à la culture populaire, hein, puisqu'en fait, il écrit sur des films extrêmement populaires, en général, c'est faux, hein, cette image du Borges cinéphile qui ne regarde que des films de von Sternberg est assez erronée, hein. Au fait, évidemment, il s'intéresse à beaucoup de réalisateurs différents, hein. Mais parmi eux, Michael Powell, par exemple, qui n'est pas considéré comme un très grand réalisateur, bien que il est très connu.
Mais pourtant, hier, François Taillandier nous parlait de l'élitisme de Borges. Il existe quand même cet élitisme-là.
Moi, je ne pense pas. Non. Là, je vais être radicale. Je ne pense pas qu'il y ait un élitisme. Alors, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire. C'est est-ce que sa littérature propose une forme d'élitisme, ou alors est-ce qu'elle a donné lieu à une forme d'élitisme ? Ce sont des questions différentes. Moi, je pense que lui, il n'était pas vraiment pour un élitisme. Il revendique très tôt, hein, nous sommes dans les années 1926-1927, des zones de la culture populaire qui sont dépréciées et très mal vues en Argentine. Et donc il y a le cinéma, il y a le roman policier, hein. Il est très très tôt, il revendique le roman policier, alors que nous avons ce texte très beau, hein, par ailleurs, de Victoria Ocampo, où elle dit que quand elle a mal la tête, elle prend une aspirine ou elle lit un roman policier. Mm-hmm. Donc c'est tout dire. Donc il vit dans ces élites de Buenos Aires, ça on va pas le nier, hein. Il vivait dans une classe sociale qu'on peut identifier à une élite de façon très évidente, du point de vue de sa famille aussi, il a une culture d'élite, tout ça est vrai, mais il n'a jamais prêché ceci dans sa littérature.
Mais quand il parle du cinéma, justement, pour y revenir, il est quand même capable d'écrire sa fascination pour la tentative de contrôle du sens par les films hollywoodiens.
Oui.
On voit bien en quoi alors je ne sais pas si c'est une posture élitiste, hein, peut-être pas d'ailleurs, mais enfin, disons que la culture populaire telle qu'elle est organisée, présentée par Hollywood, ça peut lui déplaire quand même.
Ça peut lui déplaire. Alors il y a des films qui peuvent lui déplaire. Il y a des films dont il dit qu'ils sont très mauvais, ils sont mal faits, c'est mal raconté, c'est mal résolu, etc. Mais il faut savoir qu'au début, ce qui l'intéresse justement, c'est que ce qu'il voit, c'est que certains films permettent de poser de façon très claire des questions narratives que, justement, si on les pose par rapport à la littérature, elles deviennent très complexes. Et alors que dans le film, c'est un film populaire que, je ne sais pas, des millions de spectateurs ont vu et ils ont vu ce procédé. Mmh. Et donc, ils l'utilisent.
Quel procédé, par exemple ?
Alors, il parle beaucoup d'un film sur Cléopâtre où on voit, vous savez, il y a cette légende comme quoi Cléopâtre prenait des bains de lait. Mmh. Et donc, on est dans la période, évidemment, du cinéma en noir et blanc. Mmh. Et donc, le réalisateur, il l'a choisi. Donc, on voit Cléopâtre dans son bain et un chat qui vient et boit l'eau du bain. Et donc, c'est sa façon de dire. Et donc, comme lui, il est contre toute description. Il aurait toujours été contre un paragraphe qui explique que c'est du lait. Donc, il aime bien ces ressources qui permettent, en un sens, de rendre implicite ce que, pour d'autres, donne lieu à trois pages de description. Et donc, c'est là où on voit un petit peu ce qui l'intéresse. Ouais. Et effectivement, ce qu'il voit, je pense, dans le cinéma hollywoodien de l'époque, c'est effectivement, oui, on essaie de contrôler les sens et en même temps, cette difficulté qu'a le cinéma de l'époque, hein, à expliquer ce qu'est le nazisme.
Bon, alors, très rapidement, pour les non-lecteurs de Borges, par quoi faut-il commencer, Annick Louis ?
Oh, ça c'est une question, c'est vrai qu'on me pose souvent. Alors moi je commencerai par La mort et la boussole, La maison d'Astérion ou La demeure d'Astérion, Deutsches Requiem si l'histoire intéresse effectivement les gens.
Pourquoi par ce texte en particulier?
C'est peut-être les premiers que j'ai lus, je ne sais pas. Non, mais je pense que ce sont des textes qui, par exemple La mort et la boussole, jouent sur une structure de récit policier qui le rend plus accessible à la première lecture, comme la maison d'Astérion aussi.
Et ben voilà, c'est dit. Merci beaucoup pour ce conseil et pour toute cette émission. Annick Louis, je rappelle que vous êtes chercheuse en littérature à l'Université de Reims, également à l'EHESS, que vous avez fait paraître en 2006 l'essai Borges face au fascisme aux éditions Au lieu d'être. Plus récemment, vous avez dirigé avec Roland Béard l'ouvrage Lire Borges aujourd'hui aux éditions de La Rue d'Ulm. Demain, c'est avec Jean-Clé Martin que nous parlerons notamment du fantastique, de l'éternité, de la cécité, de la question du bonheur aussi chez Borges. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous. Puisque vous insistez, puisque vous en redemandez, puisque vous en voulez encore, je vais. C'est parce que vous insistez. Je ne peux pas, je sens bien que je ne peux pas ne pas vous entendre, ne pas vous comprendre. Je me mets à votre place. Il faut que je me mette à votre place. Il y a un désir. Il y a un besoin. Il peut y avoir un manque. Et pourtant, je sais bien que ça ne représente pas grand chose. Mais je sais aussi que ça peut représenter grand chose et que ça peut faire du bien. Ça peut aider. Ça peut soutenir. Ça peut apporter du réconfort, pourquoi pas, de l'espoir, et simplement peut-être ne serait-ce même que cela, oui, un petit oui, oh petit oui, petit sentiment de compréhension, de solidarité, de complicité, oui c'est cela, nous sommes complices, ce n'est pas rien ça, hein, nous sommes complices, nous sommes associés dans cette démarche, nous collaborons à la même démarche, nous sommes en collusion, nous sommes en connivence, et lorsque l'objet de notre complot, de nos assauts, de notre fureur, lorsque donc ce réel, ce terrible réel nous saisira l'un ou l'autre, nous serons tous saisis et notre complicité éclatera au grand jour. Dans la série « Revues un peu », nous écoutions un extrait de « Spiralique » de Patrick Le Divenat. C'est une petite revue nommée « Bookleg » chez Maelstrom Éditions. Des pigeons qui parlent, s'arrêtent et picorent comme les touches d'un clavier d'ordinateur. Ah, nous retrouvons Martin Vable, que nous lisions hier chez Maelstrom Éditions, la même revue, Bookleg. Des pigeons qui parlent, s'arrêtent et picorent comme les touches d'un clavier d'ordinateur. Leur bec frappe le sol. Ils se fréquentent, pièce sous tension d'un flipper téléguidé. Une voiture fond lourdement dans la rue et déplace un nouveau jour terrestre. Qui est ce, lui-là? Un jeune, un très jeune poète, côté riche ou côté trash, tape les tambours d'Apache, Clignancourt, Saint-Mandé, demandez votre place. Sorti de terre, le grand corps antique où ricoche ton malheur sur les vitres intérieures. Sorti de terre, voitures à l'horizontale, propulsées à leur tour sur les pistes calmes où l'air est lourd. Ces phrases sont de Martin Vable. Un poète des villes, parti s'exiler dans les Landes, natif de Boulogne-sur-Mer, oui, je vous donne tout ça dans le désordre. Un communiqué qui nous arrive au milieu des revues. En 24 ans d'existence, la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne a invité quelques 600 poètes du monde entier, dont la plupart des acteurs les plus marquants de la poésie contemporaine. Elle organise ainsi le plus ancien des grands festivals de poésie en France et certainement l'un de ceux dont la notoriété est la plus grande à l'étranger. La Biennale ne défend pas une école ou une conception particulière de la poésie. Elle est ouverte à la multiplicité de la création poétique aujourd'hui. Son ambition est de permettre au public le plus large d'entrer en contact avec le meilleur de l'expression poétique. Alors, on peut se demander ce qui justifie son extinction. Pas mal ça. Justifie son extinction, c'est pas mal ça. Nostaljukebox, fumant de fulgurance, allons jaser sur les variations. Nostaljukebox, c'est un texte de Tom Buron qu'on trouve dans la même revue. J'ai trouvé des papillons hilares qui se prenaient pour des poèmes en prose, des femmes perdues dans des oreilles de fer, des enfants abandonnés par la toile des rites. J'ai trouvé des nus, des langages incognito, des falsifications et des bouts de phrases. J'ai trouvé le goût des fêtes et des larmières, des pétales de cam dans les veines prêtes et offertes. J'ai trouvé des plaies naissant des bois du désespoir, des wagons en lambeaux et il n'en reste que les chants.
Jacques Bonafé, merci.